Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Nos vacances à vélo, voilà notre feuilleton livre avec vous, Philippe Coupy, bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous dirigez la collection Vélo des Guides du Routard.
Absolument.
Et ce sont des carnets de voyage à retourner en format italienne pour le fixer sur son guidon. C'est le livre idéal pour le vélo tourisme. Vous en avez déjà publié une quinzaine ?
Une bonne quinzaine, on en est à 19 en tout, même avec une autre série qui n'est pas spirale.
D'accord, celle à spirale c'est pour mettre sur le guidon, et celle n'est pas la spirale c'est pour le regarder dans son
salon. On l'emporte dans la poche et on peut scanner le tracé de l'itinéraire puisque les cartes sont beaucoup plus schématiques, mais c'est aussi très pratique et beaucoup plus illustré en fait.
Et puis alors pour synthétiser un peu tout ça, vous avez publié Le Routard, la France à vélo, nos plus beaux itinéraires de 1 à 3 jours que l'on va parcourir tout au long de ce mois ensemble pour aller à bicyclette à travers la France.
Avec plaisir, je vous emmène sur mon porte-bagages.
Alors, c'est génial. D'abord, comment procédez-vous ? C'est-à-dire que vous avez une bande de jeunes qui testent les voies, vous faites comment ?
Alors, en fait, je suis une bande de jeunes à moi tout seul.
Ah ouais ?
C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, c'est moi qui parcours l'ensemble des
itinéraires. Vous avez parcouru tout ça ?
Absolument, oui. J'ai à peu près 40 000 km au compteur, si c'est la question qui suit.
À Bigre ?
Oui.
Donc vous prenez des notes, vous rencontrez des gens, on va en rencontrer tout au long de ce mois, et puis vous prenez le meilleur.
Alors oui, alors pour tout vous dire, je pars quand même pas la fleur au fusil, hein, c'est un petit peu préparé bien entendu.
Oui.
Il se trouve que je suis dans ce sujet du tourisme à vélo depuis plus de 25 ans maintenant, donc je connais assez bien les grands itinéraires. Et puis j'ai ma petite méthode que j'ai inventée au fil du temps, de manière empirique, mais qui est efficace. Et donc je prépare très scrupuleusement, à l'aide de fonds cartographiques, à l'aide de beaucoup de documentation. Et puis un beau jour, je prends mon vélo, je réserve un train et je pars, je mets mon vélo dans le train, dans la plupart des cas. Et puis je parcours ensuite l'ensemble de l'itinéraire à vélo, voilà, à peu près 40,
alors pour
50.
Une personne en condition physique normale, la distance quotidienne est de 40 km, avec une moyenne de 10 km/h pour se laisser du temps de s'arrêter pour contempler, c'est ce que vous écrivez.
Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment l'esprit. On n'est pas dans l'esprit vélo sportif où on tire la moyenne. Là, le principe, c'est de faire avant tout du tourisme, de se déplacer avec un moyen de locomotion qui est fort pertinent, qui est le vélo. Et on fait de l'ordre, effectivement, 40, 50, 60 km par jour, ce qui laisse simplement le temps à la fois de pédaler. Si on fait du 10 km/h, ce qui n'est vraiment pas très rapide en vélo, on a le temps de s'arrêter, de rentrer dans les églises, d'aller dans les musées, de faire des provisions au marché. De s'arrêter, faire une pause baignade, par exemple, et voilà, et la journée est bien remplie.
Alors, naturellement, moi, je ne suis pas outillé. On va choisir notre vélo, nos bagages, on ne blague pas avec le matériel. Quel modèle ?
Alors, pour faire simple, le plus commode, c'est ce qu'on appelle le vélo tout chemin, VTC. C'est un, on va dire que ça ressemble à un vélo de ville bien équipé avec des...
C'est mieux que le VTT ?
Alors c'est mieux que le VTT parce que le VTT on a une position qui est assez sportive, qui peut être fatigante pour de la randonnée à longue distance, et surtout sur un VTT on n'a pas de porte-bagages. Or quand on part en itinérance, on a ses bagages avec soi, ses sacoches qu'on met à l'arrière, fixées sur le porte-bagages. Pour les gens qui partent très longtemps, on a même des porte-bagages avant, qui se mettent sur la roue avant. Donc là c'est pour les gens qui partent plutôt faire des très longs périples autour du monde.
Alors pas de sac à dos vous ?
Non, le sac à dos, bon, si on se balade dans la journée, ça va. Mais le problème du sac à dos, c'est qu'en fait, ça vous échauffe le dos et surtout, ça fatigue les cervicales. Donc, en fait, on déconseille le sac à dos pour la randonnée à vélo. Il vaut mieux mettre son barda dans les sacoches.
Donc, une sacoche de guidon.
Alors, une sacoche de guidon,
très importante,
parce que là, on met son téléphone, son appareil photo, et on met son fameux guide du routard à spirale, qu'on va replier gentiment, et ce guide est conçu pour qu'on puisse avoir la carte sous les yeux tout au long de sa balade.
Et la barre de céréales aussi.
Alors, les barres de céréales, les fruits secs, quelques fruits, de l'eau, bien sûr. Voilà, et à partir de là, normalement, on est paré.
Pour les petits, vous privilégiez la remorque ?
Alors, ça dépend des âges. Pour les vraiment petits, la remorque, c'est vraiment très commode parce que les enfants peuvent se détendre complètement, ils peuvent observer le paysage. Ça, c'est bien jusqu'à 6-7 ans. Voilà, ils peuvent mettre en plus, l'avantage c'est qu'ils peuvent mettre leur doudou, ils peuvent mettre leurs petites affaires, leurs petits livres, etc. Donc ils aiment bien, puisqu'en plus c'est des remorques vitrées, donc on voit le paysage. Quand ils sont un peu plus grands, on a ce qu'on appelle le follow me en fait, c'est une barre de traction. C'est un instrument qui permet d'accrocher le vélo de l'enfant au vélo du parent.
Ça fait comme un tandem ?
Ça fait comme un tandem, sauf qu'en fait, le principe, c'est qu'on utilise le vélo de l'enfant. Et ce qui est astucieux, c'est que l'enfant pédale s'il a envie de pédaler. S'il a envie de se laisser tirer par le parent, il n'a pas besoin de pédaler. Donc ça, c'est très sympa.
Un petit nécessaire de réparation, j'imagine, c'est la trousse de pharmacie du vélo ?
Oui, il faut prévoir de quoi réparer une crevaison, une chambre arrière ou deux d'avance, et puis quelques outils basiques, une bombe anti-crevaison. Enfin, ça va dépendre des itinéraires qu'on va suivre, mais voilà, un petit peu quand même être un petit peu prévoyant.
Une petite pharmacie ?
Oui, surtout avec les enfants, pour les petits bobos, quelques sparadraps, un petit peu de désinfectant.
Et les piqûres de guêpes ?
Oui, aussi, oui.
Hein,
oui, oui.
Parce que nous sommes en plein été et on va partir sur des chemins où il y a forcément des insectes puisqu'on va longer beaucoup d'eau.
Oui, encore heureusement qu'il reste quelques insectes dans la nature. Et d'ailleurs, un accessoire qui n'est pas un luxe, ce sont les lunettes de soleil parce qu'elles vous protègent de la poussière et aussi des insectes qui volent, surtout en fin de journée. Quand on arrive au crépuscule, on peut avoir quelques petits objets volants non identifiés.
Alors, moi, j'y connais rien. Il y a plusieurs voies, il y a plusieurs types de voies. Il y a la voie verte, c'est ce que j'ai lu, il y a des voies rouges. Qu'allons-nous emprunter ?
Alors, effectivement, les voies vertes, c'est une nouvelle infrastructure de transport, pour parler un peu de manière technocratique. En fait, c'est tout simplement une piste cyclable un peu plus large et sur laquelle les piétons ont aussi le droit de circuler. Les rollers, les personnes à mobilité réduite, en fait, ce sont des voies qu'on a aménagées souvent sur les chemins de halage des canaux ou sur d'anciennes voies ferrées ou sur certaines voies forestières. Donc, ce sont des voies qui sont dites en site propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véhicules motorisés. Donc là, on est vraiment tranquille, on peut y aller avec les bambins, on peut y aller avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo. Donc voilà, la voie verte, c'est une infrastructure. Mais nous, on va aussi parler de véloroute. Alors, les véloroutes, c'est un terme un petit peu barbare pour parler de ces grands itinéraires à vélo. C'est l'équivalent des GR, des chemins de grande randonnée pour les pédestres. Donc, ce sont des grands itinéraires, parmi lesquels les plus connus en France sont la Loire à vélo, par exemple, qui longe la vallée de la Loire.
Et là, donc, il n'y a que des vélos.
Alors, sur la véloroute, en fait, c'est un assemblage. C'est un peu comme un GR. C'est pour ça que le parallèle est intéressant. Parce que, autant que possible, on va emprunter des voies vertes. Comme pour un GR, on va emprunter des sentiers, des chemins sans voiture. Mais par endroit, on va partager l'itinéraire avec des voitures, mais à trafic très, très modéré. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, il y a des voies cyclables qui sont aménagées, des bandes cyclables, du marquage, etc.
Mm-hmm. Et si je veux ne faire que de la voie verte, c'est-à-dire ne rencontrer aucune voiture.
Alors là, il y a un certain nombre de parcours qui sont intégralement en voie verte.
Formidable.
Généralement, ce sont le long des canaux. Là, on a des linéaires, on en parlera certainement plus tard. Mais le canal d'Illérance, par exemple, qui va entre Rennes et Dinan. On a les canaux de Bourgogne, qui sont extrêmement bien aménagés. On a la voie bleue, qui est à 80% dans l'est de la France.
Qui descend du Luxembourg jusqu'à Lyon.
Du Luxembourg jusqu'à Lyon. Je vois que vous êtes bien informé. On longe la rivière Moselle qui est canalisée, ensuite la Saône et entre deux le canal des Vosges. Donc là, on est à 80% sans voiture. Sur la Via Rhôna, dont on parlera aussi tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de voies vertes. Le canal des Domères qui prend le canal de Garonne, le canal du Midi, on est pareil à plus de 80%.
Est-il nécessaire dans ces cas-là, puisqu'on est sur une piste cyclable et qu'on ne va pas rencontrer ces méchants automobilistes, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de porter un casque ?
Alors, le casque est conseillé parce que la boîte crânienne humaine n'est pas conçue pour une chute éventuelle à 25 ou 30 km/h. C'est quand même conseillé.
On a dit km/h, on a dit tout à l'heure.
Oui, en moyenne.
Oui.
C'est une moyenne. Mais il peut y avoir des descentes et puis on peut piquer quelques pointes, etc. Bon, c'est conseillé, c'est pas obligatoire. Par contre, c'est obligatoire pour les enfants jusqu'à 12 ans.
Ah oui.
Donc là, vraiment, il faut porter le casque.
D'accord. Alors, moi ça me semble quand même... Bon, il faut un antivol aussi.
Alors, un antivol, si on s'arrête en ville, bien sûr.
Bah oui, parce qu'on va aller visiter, on va rentrer dans des églises, visiter des musées.
C'est ça.
On va aller se restaurer aussi.
On va aller se restaurer, donc effectivement, un antivol pour les arrêts en ville, c'est indispensable.
Alors, tout cela pour quelques jours, mais pour quelques jours de vacances, pour quelques jours de ce mois de juillet, est-ce que le mieux, c'est pas de louer ?
Alors effectivement, c'est une bonne solution. Aujourd'hui, on a énormément de loueurs de vélos qui se sont développés. Je crois qu'on a eu plus 20% d'enseignes de loueurs de vélos entre 2021 et 2022. On trouve aujourd'hui des loueurs de vélos à peu près dans toutes les villes. Donc c'est une bonne solution. C'est du matériel récent, de bonne qualité. Ça coûte entre 15 et 30 euros par jour selon le type de matériel. Effectivement, c'est une très bonne idée. D'autant plus que certains de ces loueurs vous permettent de louer le vélo en aller simple. C'est-à-dire que vous arrivez, par exemple, à Orléans, vous louez votre vélo en sortant de la gare, et vous pédalez jusqu'à Nantes, et vous laissez votre vélo à Nantes, et le loueur va ramener le vélo à sa destination initiale.
Et tout ça sur une voie verte sans rencontrer de voiture.
C'est ça.
Ça, je trouve ça absolument délicieux. Vous saviez qu'en France, on a vendu 2 231 000 vélos l'an dernier, ce qui a fait un chiffre d'affaires qui a progressé depuis 2019 de 42%. Mmh. C'est vraiment un phénomène.
C'est un véritable phénomène, à la fois le tourisme à vélo, puisque la France est aujourd'hui la deuxième destination mondiale pour le tourisme à vélo, juste derrière l'Allemagne.
Ah oui.
C'est un vrai marché économique. C'est à peu près 4 milliards de retombées économiques à l'échelle de la France hein, par an. Donc c'est une filière touristique aujourd'hui. Et puis, c'est le vélo urbain. C'est-à-dire quand on voit nos grandes villes hein, aujourd'hui, que ce soit Bordeaux, Nantes, Lyon, Paris... On voit aujourd'hui beaucoup, beaucoup de vélos. On voit des gens qui utilisent le vélo pour se déplacer, pour se balader. On voit des gens qui travaillent en vélo. On voit des entreprises, les fameuses boîtes à vélo, les plombiers, les serruriers, etc., qui vont d'un point à un autre. On a des systèmes de livraison aussi en vélo aujourd'hui. Donc oui, c'est un véritable phénomène de société.
Alors, sur le site France Vélo Tourisme, on trouvera aussi plein de conseils et de précisions, notamment pour les trains vélo, Intercités, Ouigo et TGV. SNCF, en effet, exige parfois des réservations spéciales selon les trains. Le vélo sera démonté en housse ou accroché non démonté. Alors, la semaine dernière, dans le train, il y avait des dizaines de jeunes qui voyageaient avec leur vélo en housse et à peine descendus du train sur le quai. Là, tout de suite, là, ils remontaient leurs engins de sorte que le quai s'est transformé en grand atelier de vélo aux grandes dames des autres passagers. Vous imaginez bien des poussettes et des chiens. Alors, les temps changent. Faudra-t-il prévoir maintenant un espace dédié au montage et démontage de vélos, ou faudra-t-il que les cyclistes aient un peu plus de civilité ? Parce qu'ils sentent les rois du pétrole quand ils sont sur leur...
Ben, je crois qu'en fait, chaque catégorie d'usagers se sent un peu roi du pétrole, les gens à pied, les gens à vélo, etc. Bon, après, c'est un problème un peu global de civisme dans notre société. Mais...
Bon, alors, on arrive à la gare, vous nous avez parlé du vélo. En fait, comment je m'habille ?
Alors, vous oubliez le smoking, le queue de pie, etc. Et vous prenez des vêtements légers, des matières textiles synthétiques. C'est intéressant ce qu'on utilise pour le jogging, par exemple. Mm-hmm. C'est intéressant parce que c'est respirant. Donc, ça évite à la transpiration de s'incruster dans les vêtements. On prévoit une polaire pour le soir. Ça, c'est important. Quand on est sur une voie verte, et parfois, on a des tunnels. Donc, dans les tunnels, il fait très frais. Si à l'extérieur il fait 25 degrés, dans le tunnel il peut faire 14 degrés.
Oui, mais c'est très rapide.
Alors certains sont longs. En Bourgogne, du côté de Cluny par exemple, entre Cluny et Mâcon, on a le tunnel du Bois Clair. Il fait presque un kilomètre de long, 800 et quelques mètres, et ça dure quand même quelques minutes, donc c'est frais. Donc c'est bien d'avoir une polaire, puis aussi pour les soirées, bien sûr. Donc plutôt privilégier les matières synthétiques, matières de vêtements sportifs.
Pas de coton donc.
Éviter le coton. La laine mérino, c'est pas mal aussi, mais c'est plus cher. On trouve ça dans les grandes surfaces de sport. Les lunettes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment un accessoire important. C'est pas que pour la frime, hein, ça vous protège de la poussière, des insectes, etc. C'est bien d'avoir des gants, parce que si on roule vraiment longtemps, ça évite de faire bobo et ses petites mimines. Mm-hmm. Et puis, le cuissard. Alors, vous voyez, c'est ce short un peu spécial rembourré
où il faut.
À l'endroit où il faut.
Ouais.
Et ça évite de se faire mal là où il ne faudrait pas, effectivement. Ça,
mais, on peut avoir une selle plus large, on n'est pas obligé d'avoir une selle de course.
Absolument,
on peut avoir une selle. Comme nos amis du Tour de France.
Non, c'est ça. Alors, un point important, c'est le réglage du vélo. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir les bons équipements, les bons vêtements, etc., le bon vélo. Mais il faut que votre vélo soit bien réglé, que la hauteur de la selle corresponde bien à votre morphologie, etc., pour le guidon également. Un petit détail, c'est gonfler bien vos pneus aussi. Il ne faut pas avoir des pneus sous-gonflés, parce que là, on se fatigue inutilement et on a plus de risques de crevaison. Donc, il faut bien gonfler ses pneus.
Mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut une remorque, il faut tirer une remorque avec tout le matériel.
Non, alors, je vais vous dire, quand on part en itinérance à vélo, ça vous invite à une forme de sobriété.
Oui.
Heureuse.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, on comprend vite que le poids est un ennemi. Et du coup, on voyage léger. Donc, on sélectionne bien ce qu'on emporte. Au début, on prend plein de choses. Et puis finalement, quand on trie tout et qu'on met tout dans ses sacoches, on en prend beaucoup moins.
Dans l'ensemble des guides, du routard, Philippe Coupy, quelle est l'excursion la plus longue ?
Alors, la plus longue aujourd'hui, c'est un parcours qui s'appelle la Scandibérique. Scandibérique parce que c'est la partie française d'un itinéraire européen qui est la route des pèlerins, qui part de Trondheim en Norvège et va à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, ça fait presque 4000 km en tout, de la Norvège à la péninsule ibérique. Et donc, Scandinavie... péninsule ibérique, ça donne Scandibérique.
Voilà.
Et ce parcours, c'est la plus longue véloroute aménagée en France. Elle fait 1700 km. Elle part de Maubeuge dans le nord et elle arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port au Pays Basque. C'est très très beau, très intéressant.
Tout en voie verte.
Alors, c'est pas tout en voie verte, ouais. Mais il y a beaucoup de voies vertes. Et on découvre, alors moi, j'ai, pour l'avoir parcouru, bien évidemment, j'ai découvert des coins complètement improbables. La vallée de la Vénois, où on fait le fameux fromage de maroilles. La vallée de la Thiérache, où il y a des églises fortifiées à chaque coin de village. Et puis, on arrive comme ça jusqu'à Compiègne, Paris, avant de redescendre sur la vallée de la Loire et de traverser toute la Nouvelle-Aquitaine pour aller jusqu'au pied des Pyrénées.
Et on part avec Georgette Plana.
Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais de mort à la zéro. C'est le seul moyen de se refaire une santé. Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler. Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure. Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur. Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, du vélo, tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Toi, contrairement à tous les géants de la route, tu prendras le temps de boire et de casser la croûte. Tu vas pédaler tranquillement, toujours pépère, et découvrir les joies de la vie au grand air. Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais.
Les joies de la vie au grand air, c'était Georgette Plana qui nous chantait « Fais du vélo ». Et nous voilà partis, en effet, sur les routes de France, avec vous pour Philippe Coupy et avec les guides du routard. Alors, on ne va pas prendre les 15 ou les 19 titres. Je vous propose qu'on prenne notre « La France à vélo », qui est un peu la synthèse, et on va partir pour un ou deux jours, mais on ne va pas faire une grande escale de 4000 km. Vous voulez parler de l'accueil vélo ?
Oui, alors Accueil Vélo, c'est important parce que c'est une marque nationale qui est un label en fait et qui permet d'offrir aux cyclistes les services dont ils ont besoin. Alors ça concerne les hébergements, les hôtels, les chambres d'hôtes, les campings où en fait on prévoit un endroit pour garer son vélo dans des bonnes conditions parce qu'on aime, quand on est en vélo, on aime bien le retrouver le lendemain matin. Mmh. Et on vous offre un service un peu adapté, on vous offre à boire quand un verre d'eau quand vous arrivez, que vous avez pédalé toute la journée. Il y a un dispositif aussi d'accueil vélo dans les sites de visite, dans les musées, dans les châteaux, notamment en bord de Loire. C'est-à-dire que quand vous êtes avec tout votre barda, vos sacoches, ah oui, votre vélo, vous avez envie de le garer et de pouvoir visiter tranquillement le musée ou le château.
Sans avoir à défaire les sacoches,
avoir
partir,
à
déposer au vestiaire, etc.
Voilà. Il y a aussi des loueurs de vélo, des réparateurs de vélo qui sont accueil vélo, donc qui sont sensibles à ce public qui est un peu différent du public habituel pour eux, qui sont les itinérants, donc ils vont vous dépanner, vous réparer, etc., y compris un peu dans l'urgence. Voilà, pour l'essentiel, la marque Accueil Vélo. Donc 8000 prestataires répartis un peu partout en France.
8000,
c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a...
C'est formidable. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de monde maintenant, parce que, puisque c'est du 13 à la mode, je disais tout à l'heure qu'il y avait plus de 2 millions de vélos qui avaient été vendus cette année. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des embouteillages, comme par exemple sur les pistes cyclables de l'île de Ré?
Alors évidemment, si vous allez à l'île de Ré le 15 août, vous risquez de croiser d'autres cyclistes.
Ah oui, ça c'est terrible.
Mais pas que des cyclistes. Hein. Donc voilà, donc effectivement, dans les zones déjà à forte fréquentation, pour
pas dire... Île de Ré, Noirmoutier, toutes les îles en fait.
Toutes les îles, il y a beaucoup de monde, mais sur les autres itinéraires, franchement, sur la Loire, en Bourgogne, en Bretagne, la Vierona, etc., non, vous allez croiser du monde, bien sûr, beaucoup plus de monde en été que d'habitude, mais ça reste tout à fait fréquentable et agréable.
Et toutes ces infrastructures sont ouvertes toute l'année ou c'est juste la belle saison ?
Par définition, elles sont ouvertes toute l'année.
Ah oui.
Ouais, sauf cas exceptionnel, zone avec des inondables et autres. Ouais. Mais non, c'est bien. Elles sont considérées comme des voies de circulation, en fait, hein, comme des infrastructures de transport. Donc, par définition, elles sont ouvertes toute l'année.
Donc, on peut aller à la Toussaint sur le canal d'Ille-et-Rance, par exemple.
Très bonne idée.
Très bonne idée. Bon, et ben, donc, notre émission n'est pas qu'estivale et nous allons pouvoir prendre des notes pour pouvoir préparer soit nos grandes vacances, mais peut-être aussi nos week-ends d'automne, c'est peut-être pas idiot. Et je vous propose, nous verrons ça la semaine prochaine, nous irons précisément sur le canal d'Ille-et-Rance pour voir le fantasme batelier du cycliste, c'est ça ?
C'est ça.
Bon. Donc on verra ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que nous avons encore comme précision ? Nous avons 3 minutes. Qu'est-ce que nous avons encore comme précision ? Est-ce qu'il y a une question d'assurance spéciale ?
Non, c'est votre assurance responsabilité civile classique. Non, il y a un vrai sujet, on en parlait tout à l'heure, c'est le vélo et le train. Parce que le train est le meilleur ami du vélo et inversement. C'est-à-dire que si vous décidez, par exemple, d'aller sur ce fameux canal d'Ille-et-Rance, vous avez la possibilité d'y aller en train depuis Paris. Vous allez louer un vélo à Rennes, par exemple. Et de Rennes à Saint-Malo, vous allez pédaler dans un premier temps. Et le retour peut se faire en une heure de train express régional, de TER, entre Saint-Malo et Rennes. Donc, il y a une combinaison gagnante entre le parcours vélo et le train. L'exercice n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, mais sur les trains régionaux, ça fonctionne plutôt bien. Et pour le reste, on vous donne toutes les astuces, tous les conseils.
Mais ça, il faut le réserver sur Internet.
Alors,
ou sur l'application de la SNCF.
Effectivement, de plus en plus, il y a une réservation qui est obligatoire, à minima conseillé, parce que y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une bonne idée d'aller faire du tourisme à vélo et du coup les gares sont parfois assez encombrées de cyclistes.
Bon, merci infiniment. Nous nous retrouvons donc pour partir en Bretagne. Ce sera la semaine prochaine. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, le Tour de France parcourt plus de 139 km entre Pinerolo et Valloire. Nous nous enfourchons notre vélo différemment et en humant l'air du temps. C'est ça qui est délicieux. Merci Philippe Coupy. Merci Cédric Coba pour la réalisation. François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer pour la réussite technique de notre entretien. Demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma avec Patrice Lecomte. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.